Le rendez-vous commercial est un incontournable de la vente, qu'il se réalise en présentiel ou en distanciel, comme cela est de plus en plus la norme. Afin de mieux connaître les choses à faire et ne pas faire pour optimiser son rendez-vous, j'ai interviewé Baptiste Thuny, account executive chez Mojo, un éditeur de solutions d'analyse conversationnelle qui permet d'enregistrer les rendez-vous avec les prospects et les clients dans un but de coaching et d'amélioration des performances commerciales. Baptiste fut le premier commercial embauché chez Mojo il y a presque 2 ans. L'équipe de vente compte aujourd'hui 5 commerciaux et va doubler le mois prochain. Baptiste nous partage ses bonnes pratiques pour un bon rendez-vous client avant, pendant et après le rendez-vous. Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B. Bonjour, je suis Yann Gourvenec. Vous êtes bien sûr les podcasts de Sales and Marketing Insiders, le blog de la vente en B2B de Sparklane. Le sujet du jour, bonne pratique pour le rendez-vous commercial et vendre mieux. Eh bien, je suis avec Baptiste Thuny de Mojo, mojo.ai. Bonjour Baptiste, je suis ravi de voir un jeune professionnel comme vous qui a choisi le métier de commercial, parce que c'est... Alors même si vous vous appelez account executive, il n'y a pas de honte à s'appeler commercial, n'est-ce pas?
Effectivement, non, il n'y a pas de honte à dire qu'on est commercial.
C'est une bonne nouvelle et donc nous allons profiter... de votre expérience alors chez Mojo. D'ailleurs, vous avez été le premier commercial chez Mojo. Et là, l'équipe est en train de s'étoffer de manière spectaculaire, hein, si j'ai bien compris.
Exactement. Mojo, c'est un projet assez récent. On a 1 an et demi. Je suis arrivé, j'étais le premier d'ailleurs à rejoindre l'équipe. Là, aujourd'hui, on est 5 et on va doubler les équipes commerciales le mois prochain.
Bien. C'est donc pour avis aux amateurs, pour ceux qui cherchent un job et qui n'ont pas peur d'être commercial, et qui ont envie d'aller de l'avant et de faire des choses intéressantes avec Mojo, hein, vous savez où envoyer votre CV. Et on va profiter aujourd'hui de votre expertise pour parler du rendez-vous client, hein, puisque c'est le métier de Mojo, améliorer la performance en rendez-vous client, et on va travailler avec vous sur ce sujet. Alors, le rendez-vous client, ça commence déjà par une préparation. Hein, alors peut-être que vous pouvez commencer par nous partager vos bonnes pratiques pour préparer un bon rendez-vous client.
Je pense que c'est la phase la plus importante du rendez-vous client, la préparation. Marc Benioff, le CEO de Salesforce, disait que 70% du succès en vente était dû à la préparation. Oui. Et on pense ça aussi. Avant chaque rendez-vous, on prend 15 minutes pour préparer l'entretien. L'idée, c'est de tout savoir sur l'entreprise qu'on a en face de nous, quelles sont ses problématiques, ses enjeux, son organisation. Et donc là, on a plein de manières de faire pour trouver de l'information, soit sur leur site web, soit sur LinkedIn, soit sur d'autres sites comme Welcome to the Jungle. Ça, c'est le premier point. L'idée, c'est de tout comprendre là-dessus. Et le deuxième point, c'est de tout comprendre sur le prospect et la personne qu'on a en face de nous, son rôle dans l'organisation et quelles vont être ses attentes autour du produit.
Oui, on a aussi Sparklane, d'ailleurs, au passage, pour avoir des informations sur les entreprises. Alors donc, vous dites 15 minutes, ça suffit 15 minutes ou on peut passer éventuellement un peu plus de temps?
Ça dépend de... C'est une bonne question. Ça dépend en fait de l'importance de votre meeting. Évidemment, tous les meetings sont importants, mais il y en a qui vont être plus que d'autres. Nous, on aime bien accorder encore plus de temps. En fait, avec un outil d'analyse conversationnelle comme Mojo, on a la chance de pouvoir revoir des passages clés dans les précédents meetings qu'on a fait avec ces personnes pour mieux préparer les prochains. Mmh. Aujourd'hui, tous les commerciaux du monde, pour préparer un rendez-vous, relisent les quelques notes qu'ils ont dans leur CRM. Avec un outil comme Mojo, on est capable d'avoir une information qui est 100 fois plus précise en revenant dans l'ambiance du dernier meeting, en récupérant les mots-clés du prospect, et on arrive beaucoup plus préparé et beaucoup plus confiant dans le meeting d'après.
Oui, comme dans tout métier, et peut-être encore plus dans la vente, il faut être organisé quoi, pour savoir où on retrouve ses notes, hein, parce que je dois avouer, je suis pas forcément très bon là-dedans, parce qu'à chaque fois que j'ai un rendez-vous, je sais que j'ai un petit papier quelque part, ou alors je l'ai mis sur ma tablette, ou alors c'est pas bon ça. Hein. Il faudrait que je me professionnalise là. Vous avez raison. Alors, est-ce que cette préparation, c'est quelque chose qu'on fait tout seul, ou est-ce qu'on se fait aider par un camarade?
Alors sur la préparation, je pense qu'on a généralement, elle se fait tout seul. C'est pas la peine de mobiliser quelqu'un d'autre. Généralement, on a toutes les infos qu'on veut et on les trouve tout seul. Et pour se préparer, on a besoin de personne. On peut poser sur des sujets un peu stratégiques des questions à des collaborateurs pour pour avoir des conseils, mais je pense que la préparation, c'est un exercice qui se fait globalement tout seul.
D'accord. Alors, dans le métier du conseil, en fait, on aime bien aller voir quelqu'un pour aller s'aider, pour aller tester son idée, faire un peu, comment dire, un test à blanc. Et alors, chez Capgemini, on faisait ça, on appelle ça le test de l'imbécile, parce que je ne veux pas être impoli. Hein, et parce qu'on va toujours chercher un consultant qui n'y connaît strictement rien. Et en général, ça vous
Travail.
fait un miroir, mais de folie, ça. Parce que il vous met tout de suite le doigt sur, mais là on comprend rien à ce que tu racontes, mais là ça veut rien dire. Et là, c'est bon, voilà, c'est un petit tuyau. Ça, c'est mon petit tuyau personnel. Hein. Alors, donc il faut préparer ces questions à l'avance. Qu'est-ce que c'est une bonne question pour démarrer un rendez-vous client?
Pour démarrer un rendez-vous client, déjà, je dirais qu'on n'est pas obligé de commencer par une question, mais plutôt ce qu'on appelle un icebreaker, quelque chose
C'est
qui
ça.
va briser la glace. C'est quelque chose qui devient assez connu, mais de créer un intuitu, une relation avec la personne qu'on a en face de nous, et pas poser une question machinalement pour démarrer un rendez-vous qui va devenir assez ennuyant. Et ensuite, effectivement, déjà, on peut annoncer l'agenda du meeting, tous les sujets qu'on veut aborder. Et ensuite, il y aura peut-être une phase de découverte où on va poser des questions, effectivement. Je pense que on n'est pas obligé d'avoir une liste de questions à poser, ça pourrait faire un peu interrogatoire, mais l'idée, c'est d'avoir une trame et des sujets qu'on veut aller toucher. Et peut-être un tip sur les questions qu'on pose, poser des questions ouvertes et laisser parler le prospect pour avoir effectivement tous ses besoins.
Alors, il faut préparer pas seulement ces questions, il faut préparer aussi des argumentaires. Alors, comment ça se prépare un argumentaire? On va demander au marketing d'écrire une liste des arguments ou comment on fait?
Et alors sur la partie argumentaire, j'imagine que déjà il faut connaître son produit ou son service par cœur sur le bout des doigts. Et je pense que l'idée en rendez-vous, c'est pas de réciter une poésie en vendant toutes les fonctionnalités de votre produit, mais plutôt d'adapter ces fonctionnalités aux besoins du prospect et de vendre du coup plutôt la valeur et le cas d'usage que juste la fonctionnalité en elle-même.
Ah oui, j'aimerais ça. C'était une citation à encadrer, Baptiste, parce que le nombre de bourrins du commercial qui vous débitent leurs features alors qu'ils ne savent même pas si vous êtes dans la cible ou si vous êtes intéressé ou si vous avez d'autres préoccupations. Aïe, 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 on va la mettre en gros, celle-là, hein, si vous permettez. Et puis, alors, bon, alors les argumentaires, ok. Donc souvent, le marketing peut aider un petit peu quand même, hein, surtout le marketing produit, il peut aider un peu à faire des argumentaires.
On est chez Mojo, on n'est pas des grands fans d'envoyer des supports ou d'envoyer de la documentation. On trouve ça pas old school, mais on se dit que c'est pas assez regardé. On a d'autres tips qui viendront plutôt après le rendez-vous, mais pour créer de l'intensité et apporter des éléments de valeur. On en parlera après, mais on a pas mal de choses là-dessus.
D'accord. Donc ça c'est bien. Il y a d'autres façons de faire que la bonne vieille fiche d'argumentaire. Et je suppose que ça s'applique également à la fameuse fiche de la réponse aux objections.
Bon, déjà, il faut connaître toutes ces objections et savoir y répondre. Je pense que dans la phase de préparation, c'est très important aussi d'anticiper toutes les objections qu'on pourrait avoir avec ce prospect. Toujours se préparer au pire. Et un tip, ce qu'on a, c'est de tuer l'objection avant qu'elle n'arrive. On a l'habitude de dire chez Mojo qu'on bosse, on a pas mal de belles boîtes qu'on accompagne, des boîtes comme Doctolib, Backmarket, Spendesk, Swile. Et on a tendance à mettre en avant ses références clients. Et donc quand on parle à une petite boîte en face de nous, plus jeune, avec une structure plus petite, elle va nous dire, ah, mais ça, c'est des clients avec des équipes commerciales où il y a 100 ou 200 personnes. Alors si on cite juste ces clients-là, l'objection, c'est ça, ah, mais nous, ça s'adapte pas, on est beaucoup plus petit. Alors que si, dès le début, on dit qu'on accompagne ces boîtes-là, mais on accompagne aussi des structures plus jeunes qui sont en croissance exactement comme vous, et si en plus de ça, on est capable de citer un de leurs concurrents, là, on fait mouche et on évite directement l'objection.
Bonne astuce, merci Baptiste. On s'en souviendra, mais finalement, c'est bien d'anticiper effectivement les objections. Alors après, on peut aussi travailler sur des scénarios. Alors ça veut dire quoi? On se fait un film avant d'aller voir le client, c'est ça?
Moi, j'aime bien relier ça à l'agenda de l'appel. Ok, il faut que ce soit toujours structuré et être dans la maîtrise et le contrôle de notre rendez-vous. Et donc, c'est pour ça que c'est très bien d'annoncer un agenda avec tous les éléments qu'on veut aborder. Ensuite, sur la partie scénario, je pense que quand on anticipe toutes les objections, qu'on connaît son argumentaire de vente et qu'on a en tête une trame avec des questions de découverte, il n'y aura pas 36 000 scénarios.
D'accord. Bon, alors après, il y a encore une étape, c'est peut-être la répétition. C'est utile et on répète devant son miroir pour voir si on est beau ou on s'enregistre, on fait un loom, on fait quoi?
Il y a plusieurs techniques. Nous, on aime bien s'enregistrer et se réécouter. Ça nous aide pas mal à optimiser notre discours. L'idée, c'est que, effectivement, quand on arrive dans une boîte, on peut faire des mises en situation. C'est toujours intéressant et ça nous permet de nous former assez vite. Ensuite, on a d'autres moyens qui vont prendre beaucoup moins de temps de s'entraîner. Bah, notamment comme Mojo qui enregistre et retranscrit des appels. On est capable de revenir très vite en un clic sur des passages intéressants. Quand est-ce que j'ai parlé de prix? Quand est-ce que j'ai eu une objection? On peut retrouver très vite ces passages-là et les partager à notre manager ou à d'autres collaborateurs pour avoir des feedbacks sur ce qu'on a dit.
Et les commerciaux n'ont pas peur de partager leurs erreurs avec leur manager?
Ça peut faire peur au début. Pour être tout à fait honnête, on a des boîtes assez traditionnelles qu'on accompagne comme Aize, avec des collaborateurs qui sont assez expérimentés et qui n'ont pas envie d'être enregistrés. C'est quelque chose qui est nouveau et on a une objection autour du flicage qui arrive régulièrement. Mais ce qu'on fait généralement, c'est qu'on rencontre ces personnes-là, on leur montre le produit, on leur explique à quoi ça sert et la valeur que ça va leur apporter, et on les rassure sur tous les doutes qu'ils pourraient avoir. Et en général, ça se passe très bien.
Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire, avant de faire écouter l'enregistrement à quelqu'un d'autre, peut-être un intérêt pour la personne à écouter elle-même son propre enregistrement? Ça évite le flicage, comme vous dites, puis surtout ça évite de passer pour un idiot si on a fait des bêtises, mais en même temps ça permet de s'en rendre compte.
Ouais, bien sûr. Alors, l'idée d'ailleurs, c'est plutôt de réécouter ses calls que les calls des autres, même s'il y a des intérêts, il y a un intérêt à réécouter les conversations des autres pour en tirer des choses. Mais l'idée, c'est vraiment ça. D'ailleurs, le cas d'usage principal sur la plateforme, c'est des commerciaux qui reviennent sur leurs appels et qui vont partager des moments intéressants à leur manager pour avoir des feedbacks, ou alors à d'autres équipes pour plutôt partager de l'information.
Très bien. Bon, c'est bien entendu, ça va de soi pour les managers qui nous écoutent. Il faut pas fliquer les gens. D'abord, c'est stupide. Ensuite, c'est contre-productif. Hein, il vaut mieux les mettre en confiance. Hein, c'est surtout quand on débute et de toute façon, quand on est dans le commercial, on débute tous les jours, même quand on a 60 ans. Donc voilà. Donc il faut être gentil et il faut encourager les gens plutôt que de les fliquer. C'est une très mauvaise pratique. Alors, ensuite, il y a le déroulement de la réunion. Bah oui, forcément. Après l'avoir préparé, allez, on se lance, on va voir le client. Et alors là, bah, là c'est pareil, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques. Déjà, il y a la prise de notes. Quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques pour la prise de notes?
La prise de notes, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui est assez singulier. Chacun a sa manière de prendre des notes. Il y en a qui prennent des notes encore à la main sur un cahier. Il y en a qui prennent des notes sur l'ordinateur, sur différents supports. Il y en a qui prennent pas de notes du tout. Moi, j'étais plutôt partisan de ceux qui ne prennent pas de notes du tout et j'aime bien me concentrer sur ce que dit mon prospect. Et quand on a un outil qui enregistre la conversation pour nous et qui la retranscrit, on n'a plus vraiment besoin de prendre de notes. Et donc, on peut revenir très vite sur le rendez-vous après et en quelques clics retrouver les passages qui vont nous intéresser pour les synchroniser dans notre CRM.
D'accord. Mais arrêtez-moi un peu là. Un client, il adore être enregistré pendant une conversation. Il n'y a pas des gens qui vous disent non, non, je ne veux pas être enregistré?
C'est une question qu'on a souvent. Et la réponse qu'on donne, c'est effectivement, on pourrait penser ça. Aujourd'hui, l'enregistrement, c'est une pratique qui s'est beaucoup démocratisée. Tout le monde enregistre des conversations. Déjà, on explique à nos prospects pourquoi on le fait. On explique que c'est à des fins de formation et pour garantir la qualité de l'échange. Mais aujourd'hui, toutes les super boîtes enregistrent des meetings. Salesforce enregistre, HubSpot enregistre. C'est un gage de qualité d'enregistrer des appels. Et en plus de ça,
Oui.
on leur propose de leur envoyer la conversation et le rendez-vous. Et comme ça, ils pourront le revoir et le partager eux aussi en interne. Et donc là, tout le monde est content.
Ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon, là, on parle des conversations téléphoniques ou Zoom ou autres, mais quand vous êtes en rendez-vous physique, vous le faites également?
Ouais, alors on fait assez peu de rendez-vous physiques, et quand on fait des rendez-vous physiques, on n'enregistre pas vraiment les rendez-vous.
D'accord. Finalement, peut-être qu'un jour, les commerciaux feront plus jamais de rendez-vous physique. C'est effrayant, d'une part, non? Quelque
Ça,
part. On va plus voir, quoi.
c'est le grand débat.
Bon.
C'est le grand débat. Je pense qu'on est assez. Bon, nous, notre, on accompagne beaucoup de boîtes qui font de la visio et de la téléphonie. Le rendez-vous physique a toujours beaucoup de valeur. Alors,
Ouais.
effectivement, il y a ceux qui disent qu'on peut faire cinq fois plus de rendez-vous en visio ou par téléphone que si on se déplace en physique. Mais le physique a aussi beaucoup d'avantages pour créer une relation avec un prospect ou un client. Je pense qu'un modèle hybride va s'instaurer dans beaucoup de boîtes.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ici aussi, on fait beaucoup de rendez-vous à distance et puis de temps en temps, on aime bien voir les gens en vrai quand même. C'est quand même mieux. Ça permet de créer une relation, effectivement, c'est autre chose. Alors, on a vu la prise de notes. Maintenant, on pourrait parler de l'équilibre entre parole et écoute. Ça, c'est une sorte de marronnier de la vente. Est-ce qu'il faut écouter ou est-ce qu'il faut parler?
On a pas mal de statistiques sur des temps de parole qu'il faudrait avoir dans certains types de rendez-vous. Je pense pas qu'il y ait de recettes miracles. L'idée, c'est d'être assez naturel et d'avoir une conversation. On a un peu de mal à dire combien de temps il faudrait parler ou combien de temps il faudrait écouter. Enfin, personnellement, et chez Mojo, on ne croit pas vraiment à ça, pas encore.
C'est un peu la vraie fausse question que tout le monde se pose, quoi. Est-ce qu'il faut écouter ou est-ce qu'il faut parler? Je dirais à la limite, si vous closez et que vous parlez beaucoup, bon, ben c'est bien, hein.
Ouais, en fait, on accompagne énormément de boîtes et on a des top performers qui parlent énormément et qui closent beaucoup avec peut-être un pourcentage de temps de parole à 60%, d'autres qui vont être très très bons et qui seront à 40%, et d'autres qui seront moins bons et qui seront à 50%. Et donc, c'est très difficile de tirer des conclusions de ça. Chaque personne a ses qualités.
Effectivement, chaque personne a son taux de parole optimum. Et puis vice-versa, d'ailleurs, chaque auditeur a son taux d'écoute optimum. Parce qu'il y a des clients qui adorent parler. Je suis un peu un client qui parle beaucoup, moi. Donc, alors, ensuite, il y a le langage corporel, comme on dit en bon français, ou body language en anglais. Alors là aussi, il y a des bonnes, mauvaises pratiques, parce que finalement, toutes les informations ne passent pas forcément par le langage. Elles peuvent passer par une moue, un rictus, un sourire.
Sur le langage corporel, il faut être le plus naturel possible. Je pense qu'une vente se fait pas sur le langage corporel, mais ça peut jouer un peu. Moi, un petit tip que j'ai, c'est quand on est en rendez-vous visio, on fait beaucoup de visio, c'est de bien regarder toujours notre prospect dans les yeux, bien regarder la caméra qu'on a en face de nous et pas avoir un regard qui part dans tous les sens, qui pourrait être un signal un peu étrange. Mais sinon, je pense pas que tout se joue sur le langage corporel.
Ouais, c'est vrai. Et puis finalement, quand on regarde les clients dans les yeux, ben, ils ont l'impression qu'on est finalement dans la même pièce. Au bout d'un moment, on oublie qu'on est en visioconférence, comme expliquerait notre ami Jean-Philippe Cunier. Alors, dans le déroulement de la réunion, il y a aussi les mots qui polluent, les mots qui font gagner, les mots qui polluent. Il y a beaucoup de mots négatifs. Hein. Il y a souvent des gens qui aiment bien faire les phrases négatives, surtout avec double négation, vous n'ignorez pas que, etc. Faut pas dire, vous savez que.
Il faut rester assez simple, avec le plus sharp possible, avec des phrases assez simples, aller droit au but. Peut-être autre chose sur des choses à éviter en rendez-vous, c'est on a souvent des prospects en face de nous qui vont faire un benchmark et qui vont aller regarder plusieurs solutions. Je pense qu'un bon tip, c'est de pas descendre ses concurrents. On a souvent tendance à faire ça pour essayer de se mettre un peu plus en avant, mais ça n'apporte pas grand-chose finalement. Il vaut mieux se démarquer, expliquer pourquoi et comment on se démarque et la valeur qu'on va apporter comparée à celle de nos concurrents.
Ouais, absolument. Ça, c'est un vieux truc que j'ai appris. Bah, j'ai pas eu beaucoup de cours, mais j'en ai eu quand même des cours de commerce quand j'étais à l'école. Et on avait un professeur, il était belge, alors il disait la concurrence, une fois, on n'en parle pas ou alors on la tue. Et ça, c'est pas idiot. Soit si vous êtes capable de tuer votre concurrent, d'accord, mais il faut vraiment être fort. Donc, sinon, vous n'en parlez pas. Et comme ça, on change le sujet.
Il y a quelque chose qui est très important en rendez-vous aussi. À la fin du rendez-vous, c'est de bien caler ce qu'on appelle une next step, une prochaine étape avec notre prospect pour arriver à le revoir prochainement. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans ce qu'on fait aujourd'hui. C'est on peut pas partir d'un rendez-vous sans avoir un deuxième rendez-vous de prix. Et donc, il faut toujours l'avoir en tête. On ne part jamais d'un rendez-vous sans avoir une next step. Et un deuxième rendez-vous dans 6 mois, c'est pas quelque chose qui est pas acceptable, ou alors il faut comprendre pourquoi. Et il faut pas.
Bien. On a vu comment préparer, on a vu comment se déroule la réunion. Bon, et après, il y a après la réunion. D'ailleurs, c'est là que Mojo intervient. Et pourquoi d'abord revenir sur les réunions? On pourrait très bien considérer si on a fait une vente ou si on l'a perdue, on met une petite croix dans son carnet et puis on passe au truc suivant. Mais pourquoi réécouter? C'est se faire mal quelque part.
Ouais. Alors il y a plusieurs cas d'usage. Il y a un cas d'usage qui va être plutôt récupérer de l'information. Effectivement, si on choisit de pas prendre de notes pendant un rendez-vous, très peu de notes, on va avoir accès à tout le contenu de l'échange de manière hyper rapide. OK, où était la phase de découverte, où étaient les objections, quand est-ce qu'on a parlé de prix, qu'on a négocié. Donc là, on peut récupérer un certain nombre d'informations. Ensuite, il y aura d'autres cas d'usage, plutôt de comprendre ce qui a bien été dans notre rendez-vous et ce qui a moins bien été. Et donc là, on va pouvoir trouver ces passages-là assez vite et demander des feedbacks à d'autres personnes. Et il y a un autre cas d'usage qui est plutôt un cas d'usage de collaboration. Souvent, quand on a des besoins sur des fonctionnalités, des retours produits, on est capable de partager ces extraits-là à d'autres équipes, aux équipes produits, par exemple, qu'on vient de dire, aux équipes marketing. Et ça a une valeur plutôt de collaboration que d'optimisation du discours commercial.
D'accord, donc c'est un travail collaboratif. Et comment ça se passe? Il y a des ateliers en commun?
Pour le coup, après le rendez-vous, on utilise beaucoup Mojo et l'analyse conversationnelle en groupe, pas pour revoir un rendez-vous, mais plutôt pour faire des sessions d'entraînement et de coaching. On va prendre des sujets sur lesquels on n'est pas super à l'aise ou des nouvelles objections qu'on reçoit régulièrement, et on va travailler le sujet ensemble. Donc effectivement, on va prendre quelques passages sur Mojo qui sont intéressants où on aborde ce sujet-là, et on va brainstormer ensemble autour d'une table pour déjà savoir comment chacun y répondrait. Et ensuite, derrière, on tranche sur le bon discours à avoir. Donc, régulièrement, on fait ça en groupe. Et on a pas mal de boîtes, d'ailleurs, qu'on accompagne, qui sont des boîtes connues comme Spendesk ou Swile, qui font également ça depuis longtemps. Et ça marche très bien.
Il y a d'ailleurs un témoignage fort intéressant, je crois que c'est Swile, sur votre site avec une vidéo, un responsable vente ou
Oui,
marketing, je ne
complètement.
sais plus, qui explique comment elle l'utilise. Alors, est-ce que justement vous pouvez nous décrire quelques cas d'usage chez vos clients?
Ouais, alors déjà il faut savoir que on accompagne plusieurs types de boîtes. On accompagne des boîtes qui font de la vente transactionnelle avec des cycles de vente assez rapides comme Doctolib. On accompagne d'autres boîtes qui ont des cycles de vente beaucoup plus longs, qui vont cibler des grands comptes. Et là je pense à des clients chez nous comme 360 Learning. Et on accompagne aussi des boîtes qui sont rien à voir avec le cycle de vente, mais qui sont au tout début. Là j'ai lancé une boîte qui s'appelle Maki dans les ressources humaines et qui elle se sert de Mojo pour comprendre les besoins de leur persona, comprendre ce qui va bien dans leur démo et ce qui va pas bien dans leur démo. Et du coup, on apporte de la valeur sur différents types de boîtes. Et donc, les cas d'usage, on en a un peu parlé, mais il y a l'optimisation du discours commercial en réécoutant des passages clés dans des appels, notamment des objections. Il y a la partie collaboration, partager des feedbacks à des équipes marketing ou à des équipes produits. Il y a deux autres points, je dirais. Il y a l'onboarding des nouveaux. On est capable de tirer toutes les bonnes pratiques dans des meetings et de les sauvegarder dans une bibliothèque d'appels pour faire monter des nouveaux en compétences très rapidement. Et il y a un autre cas d'usage qui nous intéresse beaucoup, c'est la prise de notes. On en a parlé.
Oui.
On vient de sortir ce qu'on appelle la Mojo Note Taking App, une application de prise de notes en temps réel qui nous permet directement de remplir notre CRM en live, de pouvoir pinguer des gens sur des moments et ça apporte beaucoup de valeur. C'est une application qui s'ouvre automatiquement à chaque rendez-vous, que ce soit
D'accord.
en visio ou par téléphone, et qui nous permet de prendre des notes en temps réel qui vont
D'accord.
derrière se timestamper dans Mojo, donc on va pouvoir très facilement retrouver des passages précis. On peut pinguer des gens en live. Là, par exemple, si on était en rendez-vous de vente et que vous me parliez d'un besoin sur une fonctionnalité, je pourrais taguer directement mon équipe produit. Et surtout, on est capable de remplir directement tous les champs customisables d'un CRM. Et donc, ça fait gagner énormément de temps.
Pour conclure, j'ai une question qui me titille un peu, parce que je vous entends citer vos clients, qui sont d'ailleurs tous des très belles références, hein, bravo. Mais je remarque une chose, c'est que ce sont tous à peu près des startups et des sociétés du digital, du numérique. Est-ce que finalement, les bonnes vieilles sociétés à grand-papa sont immunes face à la préparation du rendez-vous et à la performance en rendez-vous et qui continuent à travailler avec le papier et le crayon et que tous les numériques, eux, sont passés à l'étape supérieure? Il n'y aurait pas un gap ici?
C'est une bonne question. Notre ICP, notre premier focus, c'est plutôt des startups scale-up que j'ai citées, parce que c'était elles les premières à faire des rendez-vous physio et à faire de la téléphonie. C'est aussi des early adopters, donc des boîtes qui sont assez friandes d'essayer de nouveaux outils, et on est un nouvel outil. Donc c'était des boîtes qui étaient plus faciles à convaincre. Il y a aussi le fait que il y a dans ces boîtes-là des commerciaux qui sont assez jeunes et qui ont envie d'apprendre et de s'entraîner et de progresser. Et donc un outil comme Mojo est parfait pour ces boîtes-là. Et effectivement, on arrive de plus en plus, là on accompagne des boîtes beaucoup plus traditionnelles, des gros cabinets de recrutement comme Hays, des boîtes comme Rivalis qui sont plus traditionnelles mais qu'on accompagne aussi. Juste une chose que j'aimerais rajouter sur le post rendez-vous, les actions qu'on peut faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'envoyer un support ou un deck, comme on le disait, on peut faire pas mal d'actions, notamment essayer de convaincre tous les parties prenantes en envoyant des vidéos Loom avec des démos très courtes de ce qu'on fait, ajouter des sales sur LinkedIn, envoyer, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, trouver des leviers pour mettre de l'intensité.
Bon, c'est en train de percoler tranquillement dans le monde des non-startups, on va dire. Dans tous les cas, ces conseils de préparation et de performance au rendez-vous, ils sont applicables à tous. Donc, merci, Baptiste, pour ces conseils.
Écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.